Pour commencer, je voudrais vous proposer une méthode d'exercice, de pratique de l'esprit critique que moi j'utilise au quotidien, qui me sert beaucoup et qui en fait va être à la base de ma présentation. Alors, cette méthode, elle est simple, c'est que vous prenez un mot, un nom commun si possible, prenez un nom commun du français ou d'une autre langue si vous parlez très bien une autre langue. Et posez-vous cette question, est-ce que ce nom commun désigne une chose naturelle ou est-ce qu'il désigne une chose culturelle? Et parfois la réponse est simple, parfois elle est moins simple, mais presque toujours, ça a des conséquences très intéressantes de se poser ce type de question. Et on va commencer par se poser ce type de question avec un mot qui va être le mot école. Bon. Donc, est-ce que l'école, c'est un objet naturel ou est-ce que c'est un objet culturel? Bon, je pense qu'on est tous suffisamment renseignés pour savoir que l'école, ce n'est pas quelque chose d'universel qui a toujours existé et qui existe partout. Donc, à partir de ce moment-là, on peut être certain que c'est un objet de nature culturelle. Pourtant, couramment, dans la vie courante, on a l'air de considérer l'école comme quelque chose d'allant de soi, de complètement naturel. C'est-à-dire quelque chose de naturel. Sauf pour les transhumanistes, c'est quelque chose qui est là et qui sera toujours là et à quoi on ne peut pas toucher. Tandis que ce qui est culturel, vu que ça change, la culture, elle est tout le temps sujette à des variations, mais c'est quelque chose qu'on peut repenser, qu'on peut modifier, donc qu'on peut supprimer, qu'on peut ajouter, etc. Or, l'école, je me souviens, j'ai été stupéfait, moi, le jour où j'ai lu avec soin la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Parce que Déclaration universelle des droits de l'homme, alors si on n'a pas encore lu le texte, on se dit universel, donc ça doit concerner tous les êtres humains d'aujourd'hui, de demain, et dans l'idéal, ça aurait pu s'appliquer avec les êtres humains antérieurs à 1948. Bon. De partout, que ce soit de France, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, etc. Or, on trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme énormément de choses qui sont strictement culturelles, qui sont souvent propres à la culture occidentale, hein, et donc qui n'ont absolument rien d'universel. Donc ça pose question. Alors en même temps, bon, je veux pas, je suis pas en train de dire la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, c'est nul, il faut jeter ça à la poubelle. Je pense que ça a été un effort admirable, hein, d'écrire ce texte. Simplement, en 1948, il y a des choses qui n'étaient pas encore évidentes et vues visiblement, en tout cas par les rédacteurs de ces textes. Hein. Ils ont fait, je pense, de leur mieux, hein, mais ça montre bien que c'était pas si évident que ça de dire l'école, c'est pas un objet naturel. Et je vais vous lire donc l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48 qui traite de l'éducation. Alors, il n'y a pas le mot école d'ailleurs, vous allez voir, mais ça implique nécessairement l'école. Article 26, premièrement, toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite. Alors, à chaque mot, pouvez-vous poser la question, est-ce que la gratuité, par exemple, c'est naturel ou est-ce que c'est culturel? Bon. Doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures, est-ce que les études supérieures, c'est quelque chose d'universel? L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations, parce que la notion de nation est universelle. Et tous les groupes raciaux ou religieux, raciaux c'était aussi un terme qu'il s'en était pas encore tout à fait débarrassé, vous voyez, il est encore là, entre tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les Nations Unies, est-ce que c'est quelque chose d'universel? Troisièmement, les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Bon. Voilà. Alors, vous voyez, il n'y a pas le mot école là-dedans, mais elle est clairement sous-entendue. En gros, ça veut dire tout un chacun a droit à l'école et les premières années d'école doivent être obligatoires. Bon. Or, on sait aujourd'hui que des institutions du type école n'existent que dans les cultures qui connaissent l'écriture. Donc, déjà, l'écriture, c'est un phénomène extrêmement récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité, puisque elle a, à moins de découvertes futures, hein, on faut toujours trouver des tablettes un jour qui sont encore inconnues. Mais dans l'état actuel de nos connaissances, l'écriture remonte à peu près 5 300 ans. Hein, les premiers témoignages, c'est Sumer, et un siècle après, en Égypte. Donc, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez que la plupart du temps, les êtres humains, ils ont vécu sans écriture, hein. Donc, évidemment, l'écriture, de nouveau, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est propre à certaines cultures et qui a des conséquences extrêmement importantes, comme par exemple la création d'institutions du type école. Alors, il se trouve qu'une société d'écriture, une société d'école, c'est là d'où nous venons, nous. Hein, donc, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Donc, je ne vais pas trop vous parler de ça. Moi, j'ai envie de vous parler justement de ce que c'est qu'une société à tradition orale. Donc, une société qui ne connaît pas l'écriture. Et je vais vous en donner quelques exemples qui vont vous montrer à quel point ça peut modifier complètement nos façons de voir les choses, nos façons de penser, nos façons d'agir les uns avec les autres. Bon, oui, d'abord, quand même, peut-être deux, trois mots sur l'écriture. On est là pour parler des rapports sciences et société. Imaginez la science sans écriture. De nouveau, la science, est-ce que c'est un objet naturel? Évidemment que c'est une convention, la science, hein, donc c'est quelque chose d'éminemment changeable qu'on peut discuter, qu'on peut remettre en question et dont les conceptions ont évolué au fil des siècles et évolueront au fil des siècles. Imaginez faire des mathématiques sans écriture. Hein. Il y a plein de choses qui sont au fondement de nos activités d'aujourd'hui qui sont absolument impensables. Sans écriture. Ça, bon, alors oui, imaginez aussi un enseignant qui n'a pas de tableau noir, qui n'a pas de craie, qui n'a pas de feutre, qui n'a pas de stylo. Hein. Qu'est-ce qu'il enseignerait et comment sans écriture? Il est clair que sans écriture, la matière de ce qui est enseigné serait extrêmement différente et l'effort qui serait fait serait sans doute beaucoup plus ciblé, beaucoup plus répétitif et viserait davantage à la mémorisation de certaines informations clés. Et j'en viens donc maintenant à ce qui se passe dans les sociétés sans écriture. Il se trouve qu'on a un certain nombre de témoignages par différents biais qui ont été rassemblés par un certain nombre d'auteurs que vous trouverez dans mon petit papier qui se sont penchés sur ces questions-là. Il y a par exemple un psychologue soviétique qui était un type assez génial qui s'appelait Luria, qui dans les années 30... est allé en Ouzbékistan travailler chez des gens qui ne connaissaient pas l'écriture et il leur a fait passer des tests. Il leur a fait passer des tests. Par exemple, il a fait faire un test sur le travail d'inférence. Donc, il leur disait, dans le Grand Nord, tous les ours sont blancs. Et puis, la Nouvelle-Zambie est dans le Grand Nord. De quelle couleur sont les ours? En Nouvelle-Zambie. Eh bien, ils étaient incapables de répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais vu les ours blancs, et donc ils disaient, je ne peux pas vous le dire, puisque j'y suis pas allé. Vous voyez? En fait, la réponse se situait à un niveau extrêmement pratique. Il a fait un autre test, il leur a soumis des images. Alors, sur ces images, il y avait une scie, un marteau, une hachette et un rondin de bois. Et il leur demandait de grouper ensemble les choses similaires. Et ça, de nouveau, ils n'y arrivaient pas. Et même quand il leur a fait remarquer que la scie, le marteau et la hachette étaient des outils, ben, on lui faisait des réponses du genre « Ben oui, mais sans le rondin de bois, ils ne servent pas à grand-chose. » Vous voyez? Donc, le mode de raisonnement, vous voyez, était vraiment différent de celui que nous, on peut avoir et qui, en fait, nous a été apporté par cette culture, disons, d'écriture et d'école. Alors, il y a l'exemple des généalogies aussi des types du Nigeria. Il se trouve que les Britanniques, qui sont des gens extrêmement méthodiques, donc très pétris d'écriture, quand ils ont commencé à coloniser les territoires des types du Nigeria, eh bien, ils ont transcrit par écrit les généalogies de la tradition orale, très consciencieusement, parce que ça leur permettait d'établir un certain nombre d'informations sur les clans, sur les relations social, interpersonnel, sur les propriétés, etc. Donc, ils ont noté ces généalogies très soigneusement. Et il se trouve que 40 ans plus tard, ils se sont rendus compte que les généalogies de la tradition orale n'étaient plus les mêmes que celles qui avaient été transcrites 40 ans plus tôt. Et quand ils ont fait remarquer ça aux tifs du Nigeria, ben, les tifs leur ont dit ben, « vos archives, là, vos papiers se trompent ». Alors, pourquoi donc, vous voyez, et eux, ils sont persuadés que c'est la version écrite qui se trompe. Parce que dans un système de tradition orale, en fait, une information qui est retenue, elle est retenue si elle est utile au présent dans l'état actuel de la société qui la pratique. Donc, les généalogies traditionnelles, elles sont adaptées. Elles se modifient parce qu'au gré des mariages, au gré des clans, au gré des guerres, au gré des conflits et des alliances qui peuvent se créer, eh bien, on les modifie en s'adaptant à la situation. Vous voyez ? Donc, ça marche complètement, en fait, dans l'autre sens de ce que nous on fait, puisque pour nous, on va s'adapter à la généalogie écrite et non pas le contraire.
Alors, un autre exemple, oui, alors c'est un autre peuple africain du Ghana, les Gonja. De nouveau, c'est grâce aux Britanniques qu'on peut faire la comparaison. Ils avaient un mythe fondateur sur le père fondateur de leur société. Et dans leur mythe, ce personnage avait 7 enfants. Et en fait, pourquoi 7 enfants ? Parce que leur peuple était divisé, disons, en sept populations différentes. Hein, et donc, chacune était supposée être issue de l'un de ses enfants. 70 ans plus tard, la situation géopolitique avait changé. Et en fait, il n'y avait plus 7 populations différentes, mais il n'y en avait plus que 5. Et on s'est rendu compte que la tradition orale, hein, le mythe fondateur, avait été modifié, puisque le père fondateur n'avait plus 7 enfants, mais il en avait 5. Parce que, effectivement, 70 ans plus tard, il n'y avait plus que 5 parties, 5 territoires différents avec 5 populations différentes, hein, puisqu'il y en avait une qui avait été phagocytée par une autre, et une autre, il y avait eu un des déplacements de frontières aussi, entre-temps. Donc, vous voyez, le mythe, même le mythe fondateur de la population avait été modifié pour s'adapter d'une manière très souple à la situation présente de la population. Et ça, c'est vraiment typique de ce qui se passe dans une société de tradition orale. Et c'est quelque chose qui nous peut même nous choquer, hein, parce que nous, on a un respect de la lettre qui est énorme. Hein, donc, on publie des romans, il ne faut pas qu'il y ait un mot qui soit faux dans le roman. Et d'ailleurs, je parle du roman, je peux faire un autre rapprochement, c'est avec celui de l'épopée dans les traditions orales. Donc, les épopées, hein, ce sont ces poèmes très très longs qui souvent racontent des aventures héroïques. Et il se trouve qu'au milieu du XXe siècle encore, il y avait une tradition épique orale pratiquée par des je ne sais pas si on peut les appeler des poètes, mais disons des chanteurs illettrés, hein, qui c'était en Serbie. Il y a des gens qui se sont intéressés à cette tradition-là, et donc elle est aujourd'hui, elle a disparu, hein, à cause de la télévision et des évolutions de la société. Elle est très bien documentée. Il y a eu des gens à cette époque-là pour s'intéresser à cette tradition. Donc, on a de nombreux enregistrements. On a aussi des films. Alors, je vais vous rapporter juste une petite anecdote. Ils ont repéré qu'évidemment, il y avait beaucoup de... C'était toujours des hommes. Hein. Bon, il y avait toute une tradition sociale autour. Des poètes qui récitaient des poèmes de milliers de vers. Hein. Ça remplaçait un peu la télévision, justement. On se réunissait pour les écouter. Et évidemment, il y en a toujours qui sont un peu meilleurs que d'autres. Alors, ils en ont repéré un qui était vraiment très, très bon et qui connaissait un nombre de chants qui était absolument faramineux, qui était absolument énorme. Il s'appelait Avdo Medjikovic. Et alors, ils ont trouvé aussi un autre poète serbe qui connaissait un chant épique qui n'était pas connu de Medjidovic. Et donc, ils ont fait venir le deuxième, et ils l'ont fait chanter. C'était un poème qui avait, alors je vais vous dire les chiffres exacts, hein, 2294 vers, bon, tel qu'il a été réalisé à ce moment-là, hein, parce que vous allez vite comprendre que le nombre de vers n'est jamais fixe. Bon. Il a récité ce poème, donc une aventure héroïque que ne connaissait pas Medjidovic, en 2294 vers, et l'autre, il a écouté. Et ensuite, donc, c'est Lord et Parry qui sont devenus des chercheurs extrêmement connus grâce à ce type de travail qu'ils ont fait, ont posé la question à Medjidovic. Maintenant, est-ce que tu peux nous réciter ce poème ? Il dit bien sûr. Il dit bien sûr, oui, je peux vous le réciter, pareil. Il s'est lancé et il a récité le poème, sauf que dans sa version, il avait désormais 6313 vers. Voilà. Voilà. Vous voyez ? Sans préparation, hein, vous voyez. Alors évidemment, il y a des techniques. Alors ils ont étudié de très près justement ces techniques de la tradition orale qui leur permettent de faire des choses pareilles que nous, on a complètement perdu. Hein. Nous, un comédien, il sait apprendre par cœur un texte et le déclamer sur scène, mais il serait bien incapable de sortir comme ça plus de 6000 vers de sa poche. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces techniques maintenant. Je pourrais éventuellement vous donner quelques clés, mais l'essentiel, c'est le point essentiel, c'est vraiment de voir qu'il y avait là un savoir, hein, et un rapport notamment à la mémorisation, mais aussi à ce que c'est que la notion d'identité, et aussi un type de rapports humains, parce qu'en fait, ces généalogies, ces champs épiques, etc., ils étaient des phénomènes sociaux essentiels dans la structure de la société. Hein. Et quand on est passé à l'écrit, quand on lit un roman, on n'est plus en face du même jeu, ou même quand on lit de la poésie, pour faire la comparaison avec l'épopée, hein, ben vous êtes dans quelque chose de complètement différent, vous êtes dans un acte complètement individuel. Hein, et quand vous écrivez de la poésie, vous êtes aussi dans un acte extrêmement individuel. Là, il y a un acte social, il n'y a même pas d'auteur. Donc, Medvedović, il n'aurait jamais dit « je suis l'auteur du poème ». Lui, il était un chanteur qui rapportait une tradition, qu'il adaptait à son public, qu'il adaptait au moment où il le disait, au lieu où il le disait, au public à qui il le disait, hein, avec des techniques qu'il connaissait et qu'il maîtrisait extrêmement bien. Hein. Mais ces chants, c'était des espèces de chants traditionnels qui se transmettaient et qui se transformaient sans arrêt. Hein. Donc il n'y avait pas... Au XIXe siècle, et encore aujourd'hui, je crois qu'il y a encore des gens qui font ça, il y avait des philologues qui étudiaient des textes qui nous sont parvenus sous forme écrite, par exemple des textes du Moyen-Âge, comme des chansons de gestes ou des choses comme ça. Des fois, il y a plusieurs manuscrits, et évidemment, dans les manuscrits présentent des versions différentes. Et ils faisaient un travail, ils essayaient de retrouver la vraie version originale, en disant, bon, il y a eu plusieurs copies, le texte a été détérioré, il faut retrouver le texte authentique d'origine. Ben, en fait, ils cherchaient une chimère, parce que dans une tradition orale, il n'y a pas de texte unique, authentique. C'est complètement contraire à ce qu'est la tradition orale. Voilà, alors donc on a perdu tout ça, ou on a perdu l'essentiel de tout ça, parce qu'il reste quand même des petites poches de tradition orale chez nous. Et un exemple qui me vient, c'est celui des recettes de cuisine. Alors, ce qu'on prend les recettes de cuisine, il y a deux sortes de recettes de cuisine. Il y a celles que vous allez trouver dans un livre, et là on est dans la tradition écrite. Et le livre, il va vous dire, il vous faut 500 g de beurre, 250 g de sucre, etc. Il va vous donner exactement les proportions. Là, on est typiquement dans la proportion, dans la tradition écrite. Si vous avez les recettes de cuisine de votre grand-mère, elle vous aura montré le truc et elle vous dit, tu mets une cuillère de ci, une cuillère de ça. Puis là, tu vois, hein, quand c'est doré, c'est que c'est bon. Voilà. Donc, les informations qui sont données sont plus du tout les mêmes et les proportions ne sont pas données de la même manière que dans la tradition écrite. Donc, il y a des petites poches comme ça qui survivent, mais on a perdu énormément. Notamment le travail de la mémoire. C'est vrai que Platon y avait déjà pensé. Bon, ben, on ne sait plus utiliser notre mémoire à cause de l'écrit. Alors, de nouveau, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter à la poubelle l'écrit. C'est aussi grâce à lui, justement, qu'on s'est rendu compte de ces choses-là, puisqu'il y a eu des gens pour noter des épopées, il y a eu des gens pour noter des généalogies, il y a eu des gens pour noter un mythe fondateur, etc. Il y a eu des gens pour noter l'Iliade et l'Odyssée, qui sont clairement aussi, alors c'est ce qu'on montrait lors des paris, hein, qui sont clairement issus de la tradition orale. Donc c'est une version qui nous est parvenue, hein, mais il en a existé sans doute autant de versions qu'il en existait de performances à l'époque. C'est-à-dire à l'époque avant que les Grecs basculent complètement dans une culture de tradition écrite qui a donné naissance au théâtre grec, hein, qui lui est typique de la culture écrite. Pour revenir sur l'école, maintenant, sur le thème de l'école, bon ben, donc l'école n'existe que dans des cultures à tradition écrite. Ça, une des conséquences aussi qui a été mise en valeur par Illich dans son livre Une société sans école, hein, c'est qu'on divise complètement, disons, la vie en société, d'un côté, et l'école. Donc l'école, ça a l'air d'être un truc complètement à part, dans lequel les enfants vont supposer apprendre un certain nombre de choses qui devraient supposément les aider à vivre en société, mais c'est coupé de la société. Donc, c'est-à-dire que l'apprentissage se fait dans un milieu protégé, séparé, à part. Hein. Et vous voyez que dans une société de tradition orale, l'apprentissage ne se fait pas du tout de la même manière. Hein. Ça va être plutôt l'apprentissage du type l'apprenti qui travaille avec le forgeron. Hein. Les poètes serbes dont je parlais tout à l'heure, ou les chanteurs, hein, je ne sais pas comment les appeler, on a, justement, nous, dans notre tradition, on n'a même plus vraiment de mots pour ça. Ils apprenaient pas formellement aussi, ils n'allaient pas au conservatoire pour apprendre à faire des épopées. Donc c'était quelque chose qui s'apprenait par une espèce de bain culturel continu. Hein, et parfois, ils pouvaient aussi se mettre à suivre plus particulièrement quelqu'un qui leur semblait doué. Hein, mais C'était vraiment par le bain culturel, un peu comme on a acquis. Nous avons tous aussi des compétences comme ça qu'on n'a pas appris ni à l'école ni nulle part. Bon, et c'est même la plupart des choses que nous savons en vérité. Hein. Mais je peux vous donner un exemple, c'est l'exemple de la musique. Pas besoin d'être allé au conservatoire pour entendre une fausse note quand votre petit-neveu se met à jouer une mélodie sur le piano. Hein. Il a fait une fausse note. Vous n'avez peut-être jamais fait de la musique formellement au conservatoire ni rien, mais vous avez suffisamment acquis une grammaire musicale pour entendre qu'à un endroit précis, il s'était trompé. Hein. Donc ça veut dire que là, vous avez acquis une certaine compétence, au moins en tant qu'auditeur. Parce que dans notre société aussi, aujourd'hui, avec la musique, on est des consommateurs. Il y a des musiciens professionnels, mais la musique, elle est transmise surtout par les médias. Elle n'est plus transmise directement, ce qui fait que les gens ne pratiquent plus, à part les musiciens. Il y a des musiciens amateurs, mais c'est une minorité de la population. Il faut voir que dans une société de tradition orale qui précède l'apparition des technologies qui permettent de reproduire le son autant qu'on veut, eh bien, tout le monde, plus ou moins, chanter ou pratiquer de la musique, hein, parce que ces choses-là étaient transmises presque comme la parole, si je puis dire. Voilà, donc l'école, elle sépare beaucoup l'apprentissage de certains savoirs et la vie en société. Elle produit des... Quand elle est appliquée... Alors, si on suit la Déclaration universelle des droits de l'homme, on va prendre une société qui n'a pas d'école et on va dire, ah ben, c'est pas bien, il faut que vous ayez l'école. Parce que c'est un progrès, par exemple. Hein. Donc, on essaiera peut-être de finir par la notion de progrès. Donc, on va créer une école. Et souvent, ces générations qui sont les premières à aller à l'école, eh bien, très souvent, hein, bon, après, j'ai pas, il faudrait vraiment avoir des données très riches pour comparer les différents cas, mais les témoignages que j'ai pu lire, eh bien, on voit que ça ne se passe pas sans douleur. Hein, parce qu'ils se rendent bien compte que par rapport à leurs aînés, il y a un espèce de clash qui se met en place et il y a quelque chose qui va se perdre. Hein. Les parents, ils vont être complexés parce que ce que leurs enfants apprennent à l'école, eux, ils n'y comprennent rien. Hein. Et les enfants, ils vont se rendre compte que leurs parents, ils savent des choses que... qui sont complètement déconnectés de ce qu'eux, ils ont appris à l'école. Et là, il y a un gros basculement. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a toute une culture qui va changer. Ça, c'est sûr, elle va changer. Et qui même peut, à terme, quasiment disparaître. Hein. Finalement, l'école, est-ce que ce n'est pas aussi une institution qui fait partie de cette espèce d'impérialisme culturel qui fait que la culture qui s'impose de plus en plus partout dans le monde entier, c'est la culture occidentale moderne. Alors, vous trouverez un petit exemple l'histoire d'un paysan mexicain qui a fait énormément de choses pour sa communauté. C'est un très bel article qui a été publié il y a 10 ou 15 ans dans l'Écologiste. Il a voulu, en croyant bien faire, bien sûr, hein, donc il ne s'agit pas non plus de juger, de condamner des gens qui, en tout cas, font du mieux qu'ils peuvent, hein, et on fait tous parce qu'on fait tous des erreurs. Donc, il a envoyé ses enfants à l'école, et ses enfants le lui ont reproché. Hein. Ses enfants le lui ont reproché parce qu'ils se sont vraiment rendu compte que ils pouvaient plus continuer à vivre dans le cadre que leur propre père avait aidé à améliorer. Hein. Parce qu'il y avait un clash, hein, il y avait vraiment une brisure qui se produisait et l'école les amenait vers quelque chose de complètement différent. Il y a aussi le cas des Inuits, alors ça je ne vous l'ai pas mis, mais bon, qui est assez connu. Hein, les Inuits se sont beaucoup battus hein, pour pouvoir avoir un mode d'éducation qui était le leur, qui leur convenait, hein, et contre l'aplanissement qui aurait été provoqué par, ou qui était au départ provoqué par l'école. Canadienne qui en plus était religieuse, hein, donc il s'agissait en plus aussi de les convertir. Ce que je voulais dire pour conclure sur l'école, premièrement, donc, on a compris que ce n'est pas un objet naturel. Deuxièmement, qui apporte des changements majeurs dans les manières d'apprendre hein, et de transmettre le savoir. Il suffit de comparer à ce qui se passe dans les cultures de tradition orale. Hein. Et troisièmement, pour conclure, ce changement majeur, ce n'est pas forcément un progrès. Hein. Il y a une évolution, il y a du changement. Hein, je pense que ce mot, on peut l'utiliser sans problème. Il y a des choses qui se perdent hein, et il y a des choses nouvelles qui arrivent. Hein. Et après, estimer est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est une régression ou est-ce que c'est une perte, bon, ça, c'est quelque chose, c'est un problème de nouveau typiquement social, de société. Hein, évidemment, nous devons nous intéresser aux problèmes sociaux qui sont ceux de notre société. Hein. Mais je ne pense pas que on puisse dire que ce soit noir ou que ce soit blanc, comme beaucoup de choses. Hein. Et il faut bien voir aussi que la notion de progrès, ce n'est pas une notion naturelle du tout. Hein. La notion de progrès, on ne va pas la trouver dans toutes les cultures. Et vous allez trouver des langues dans lesquelles vous n'aurez pas de mots hein, pour désigner cette idée de progrès. Hein. Donc le progrès, c'est, on ne peut rien faire contre. Le progrès, rien ne peut arrêter le progrès. En fait, ce genre de phrase ne devrait pas être là parce que le progrès, si c'est un objet social, c'est un objet qui peut se transformer, qui peut disparaître et qui peut laisser place à autre chose.